Vous écoutez Série Londe, épisode 11. Exceptionnellement, cette semaine, je vous propose de commencer par un grand entretien. Avec le réalisateur Aurélien Mola et le comédien Lionel Erdogan, nous allons pénétrer dans les coulisses d'une série presque historique, La Révolution. Une série en 8 épisodes à découvrir dans quelques jours sur Netflix. Une histoire surprenante qui débute en 1787, à l'aube de la Révolution française. Pendant que la colère du peuple gronde, les nobles font face à une drôle d'épidémie, un virus qui les transforme en créatures assoiffées de chair et modifie la couleur de leur sang, du rouge au bleu, des vampires nobles devenus éternels. En parallèle, la série multiplie les clins d'œil à l'histoire, la vraie. En voici un, tendez bien l'oreille pour saisir la référence.
Oui, je reconnais bien là cette petite Marseillaise. Alors pour l'anecdote en plus, ce qui est assez marrant, c'est que ce momonage, je ne sais pas, cette espèce de sifflement des premières notes de la Marseillaise, en fait, ça s'est fait au post-synchro avec le comédien Julien Frison. On ne savait pas comment animer cette scène qui était un peu vide, un peu trop silencieuse. Et à un moment donné, je lui dis « et c'est ça, on verra ». Et il s'est lancé en impro total et finalement, on l'a laissé et... Comme quoi, ça a bien servi.
Bienvenue dans Série Land, deux hommes pour un grand entretien, le réalisateur Aurélien Mola et le comédien Lionel Erdogan pour une plongée dans les coulisses de la série La Révolution. Je m'appelle Eva et je viens de passer 388 minutes à avoir peur. Sur mon écran sont apparus des révolutionnaires intrépides, des nobles assoiffés de pouvoir et certains assoiffés de chair avec dans leurs veines un sang bleu. Quel est cet étrange virus inoculé aux nobles du royaume de France, découvert par un certain Joseph Guillotin ? Vous l'avez compris, de l'histoire, du romantisme, du fantastique, des nobles vampires, des femmes et des hommes avides de pouvoir. Vous écoutez Série Land à la rencontre d'Aurélien Mola et Lionel Erdogan. Et tout commence, comme à chaque fois, avec une première scène que vous allez bien nous décrire, Aurélien Mola.
On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres, réinventée par ceux qui ne l'ont pas vécu.
La première scène de la série se passe en 1789. C'est un flash forward. C'est les qu'est-ce que serait la révolution dans cette histoire, dans cette uchronie que nous avons eu la chance de construire. Et un noble court sous la neige, effrayé, terrorisé. On ne sait pas ce qu'il fuit. Il se prend une balle et s'effondre. Et là surgit dans la brume et sur la neige une petite silhouette à cheval. Sur un cheval couvert de sang, une silhouette masquée, et elle s'approche doucement de ce noble allongé par terre qui... Bah, je vais laisser découvrir la suite.
Merci Aurélien Mola pour la description de cette première scène qui frappe par son esthétisme, comme si on découvrait une fresque fantastique, romantique, historique, on peut dire ça ?
Oui, c'est un mélange des genres, c'est cette uchronie qui est cette série. Coloré à la fois évidemment d'historique puisqu'on s'inscrit dans une époque mais qu'on revisite, qu'on réinvente et les différents genres en fait viennent la nourrir et viennent apporter, vous parlez de fresque, c'est en tout cas l'objectif, c'était un objectif, je ne sais pas s'il est atteint mais en tout cas il a été tenté, il y avait quelque chose voilà, d'une épopée, une épopée humaine et thématique qui a porté ce projet, l'a irrigué dès le départ.
Vous n'êtes pas venu seul, Aurélien, à vos côtés, le comédien Lionel Erdogan qui incarne Albert Guillotin, le frère de Joseph Guillotin. Vous revenez des Amériques avec un sang bleu dans vos veines. Lionel, quelle est la dimension qui vous a attiré dans l'acceptation de ce projet ? C'était le côté plutôt romantique, le côté physique, parce que vous avez un rôle très physique, on va y revenir. Qu'est-ce qui vous plaisait en premier lieu ?
C'est un rôle, pour moi, assez complet. Effectivement, il y a tout ce qui est physique et moi, j'aime beaucoup ça, travailler... D'abord par le corps, et après il y a tout cet émotionnel qu'il y a autour, tout ce personnage déchiré, mais l'ampleur du projet en général, avec tous ces personnages, avec tous ces décors, avec toutes ces scènes. Je me rappelle très bien, l'un des premiers jours, Aurélien me dit « Ok, alors j'aimerais bien que tu te laisses pousser la barbe, les cheveux, les ongles, que tu prennes du poids physiquement, parce que j'aimerais bien que tu te battes contre 10 gars à un moment donné, et puis après il y a un cheval en feu qui va passer. » Je me dis « Mais il est fou, quoi, qu'est-ce qu'il me raconte ?» quelques mois plus tard, je me retrouve dans la boue en train de me battre avec 10 gars, voilà, et je vois un cheval en feu passer. Je me suis fait, ok, en fait, c'est à ce mec-là que j'ai affaire.
Donc, et combien de kilos pris entre-temps ?
4 kilos. 4 kilos. Mais effectivement, il y a ça, il y avait cette ambition dans l'écriture. Et oui, c'est, quand j'ai lu ça, j'étais à la salle de sport d'ailleurs, je me suis dit, waouh, si on arrive à faire ça, c'est incroyable. C'est sûr.
Alors, il y a une autre dimension, en tout cas, quand on est spectateur de la Révolution. On a l'impression d'être quand même face à une série d'actualités. Parce que vous décrivez aussi une société divisée, vous évoquez le goût du pouvoir, mais aussi la science face à la croyance. Je voudrais qu'on écoute un extrait.
Mon père, je ne suis rien ni personne. Je n'ai pas le pouvoir de changer les choses. Tu sais ce que nous avons en commun, toi et moi ? Le médecin et le prêtre. Une conviction. Tout le monde mérite d'être sauvé. Vous y croyez vraiment ? Ouais. Même celui qui a tué ses filles. C'est peut-être là l'épreuve, Joseph.
C'était ça votre ambition aussi, de décrire notre société ?
Oui, d'y trouver
des résonances en tout cas.
Des résonances contemporaines. Hein. Et là, c'est un très beau dialogue qui a été écrit par ma co-auteure, hein, ma co-autrice, Gaïa Guasti. Et c'est vrai qu'elle aussi a ce même goût, ou en tout cas souhait, de ramener, en fait, à travers une série historique, évidemment, quels sont les accents contemporains, en quoi un monde en chamboulement et en ébullition tel qu'est le nôtre, hein, sachant que cette série avait été écrite et tournée avant le mouvement des Gilets jaunes, avant évidemment le Covid sans doute. On était vraiment dans ce souhait de modernité et les thématiques qui sont abordées ou qui ont été celles, en tout cas, de cette France du XVIIIe siècle, sont encore contemporaines en fait.
Et Lionel, est-ce que vous l'avez vu la série terminée ?
Oui, bien sûr, ouais.
Et comment vous avez réagi quand... Est-ce que vous bingez une série dans laquelle vous jouez ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez enchaîné les 8 épisodes d'un coup ou pas ?
Ouais, c'est évidemment particulier parce qu'on est dedans, parce qu'on l'a fait. J'avais la chance que mon personnage ait quasiment pu jouer avec tous les autres. C'est un personnage qui réunit un petit peu les autres personnages. Donc ça, c'était assez agréable. Après, j'ai complètement oublié ça à un moment donné. Parce qu'il y a tellement de choses, c'est un univers tellement... large que j'ai découvert ça aussi en tant que spectateur, quoi. Moi, j'ai lu le scénario, j'ai lu la Bible, vraiment le départ, quoi. Et de voir ça à l'écran, c'est toujours assez... c'était vraiment très émouvant parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur ce tournage. On est devenus très amis, on est devenus très proches. Ça fait quasiment 2 ans qu'on vit ensemble, quoi, au quotidien. On passe beaucoup de temps ensemble avec Aurélien, avec Amir, avec toute l'équipe, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'émotions et surtout, je trouve que c'est une belle série, quoi.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous racontez, évidemment, la différence entre ce que vous lisez sur une Bible et puis après ce que vous voyez à l'écran. Mais alors, qu'en pense le showrunner, comme on dit, parce que vous êtes scénariste et producteur aussi de La Révolution, Aurélien, est-ce que ce que vous voyez à l'écran est exactement ce que vous aviez imaginé sur papier ? Ou est-ce qu'on se fait toujours surprendre et on se fait embarquer par des fois des contraintes et puis parfois des moments plus heureux, plus chanceux.
Alors évidemment, non, c'était à la fois oui, ça ressemble évidemment, mais comme ça a été une série très complexe à établir en termes de direction artistique, de pensée même, puisque c'est une série qui flirte avec les genres et qui a peu de référents connus, hormis le Pacte des Loups en tout cas en France. En tant que showrunner, on pose des bases, on est responsable d'une cohérence globale, mais qui était en mouvement. Et là où j'ai eu une chance incroyable et qui fait que c'est une vraie surprise dans la série, c'est qu'en fait, que ce soit les chefs de poste, les équipes, etc., tout le monde s'en est emparé à un moment donné. Et il y a eu une émulation sur cette série qui était complètement folle. Il y a quelque chose qui s'est passé, évidemment porté par les comédiens. C'est eux les premiers, ils ont créé une troupe. Mais après, à tout niveau, que ce soit chef décorateur, que ce soit les costumes, que ce soit les réalisateurs successifs aussi des autres blocs, des blocs... et des chefs opérateurs. À tout niveau, en fait, il s'est passé quelque chose d'un peu artisanal, totalement artisanal, et en même temps, assez flamboyant. Il y a une espèce de passion commune qui, j'espère, transpire, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est une série intègre, mais surtout, c'est une série profondément passionnée, et une série de cinéphiles, de cinéphages. On a vécu dans notre bulle, et en plus, l'accompagnement de Netflix qui nous a soutenus dans cette démarche et dans cette idée, en fait.
Donc, si je comprends bien, pas de lutte de pouvoir entre vous sur le tournage.
Aucune.
En revanche, il est bien question de justice sociale.
Messieurs.
Comtesse.
Baron.
Votre présence nous sauve, madame. Monsieur de Lariboise allait encore nous assommer avec sa justice sociale.
J'évoquais simplement avec ces messieurs que nombre de paysans se plaignent des taxes et des impôts.
À mauvaise récolte, mauvaise humeur, vous le savez comme moi.
Mais plus on les affame, plus on nourrit leur révolte.
Poule ! Enfin, baron, ces rebelles qui se font appeler la fraternité ne sont qu'une poignée de va-nu-pieds. Poule !
Une poignée que la maréchaussée ne parvient toujours pas à arrêter.
Et alors, que faudrait-il faire, selon vous ?
Ouvrir les greniers.
Allons donc. Et quoi d'autre ?
Construire des logements décents. Supprimer les impôts qui n'ont plus de sens aujourd'hui.
Pourquoi pas abolir nos privilèges tant qu'on y est ?
Peut-être que derrière les grilles de votre grande demeure, vous n'entendez qu'un murmure. Mais la colère gronde dans les rues.
Croyez-moi, comtesse, je ne dénigre en rien votre intérêt pour la chose politique. C'est avant tout une affaire d'homme.
Je me suis demandé si, au fond, la Révolution n'était pas simplement qu'un décor et l'occasion de s'offrir un château et des costumes pour la série.
Oui, évidemment, il y avait le souhait quand même d'une série historique par goût, par appétence, parce que c'est aussi assez rare dans le paysage audiovisuel français, même si ça commence à se développer. Là, il y a des choses formidables qui risquent d'arriver. J'ai beaucoup entendu parler de Paris 1900, qui a l'air d'être une série qui va déboîter sur Canal. Et du coup, il y a un élan créatif, en fait. Et c'est vrai que l'historique, il y a un pouvoir d'évocation et un pouvoir de stylisation aussi, de fabriquer un univers, oui, qui est assez excitant. Donc oui, évidemment, il y a un petit plaisir coupable. Quand
d'ailleurs,
même.
Il est où ce château qu'on voit
Alors,
à l'écran?
Ce château est en Île-de-France et c'est un château privé, en fait, qui appartient à deux sœurs qui ont décidé de diviser leur château en deux, chacune une aile. C'est le château du Marais, pour ce qui est de l'extérieur. Et les intérieurs ont été tournés à l'abbaye de Chalis, ce qui nous a permis aussi, puisqu'il y a une partie des collections de Jacques Marandré, en fait, de pouvoir utiliser une partie des collections. Donc il y a on a des commodes à quelques millions d'euros et à côté de ça, des ustensiles en polystyrène de tournage. Et on a essayé de manière très artisanale, mais de mélanger ça. Et on a eu beaucoup de chance, en fait, de pouvoir travailler dans ces décors-là.
Et pour les costumes, vous avez pris le parti pris de faire des costumes extrêmement modernes. Mmh. On voit votre héroïne principale, Élise, en pantalon même, ouais. Au début de la série. Ça aussi, c'était une ambition de votre part ?
Oui, c'était... Et puis un dialogue avec Charlotte Bétaillol, en fait, qui est la créatrice des costumes, qui avait envie d'apporter cette modernité-là et, pour coller au texte et à l'ambiance. Et aussi ajouter quelque chose, c'est-à-dire une stylisation globale plastique, qui était très importante et qui était l'un des pivots et l'un des points centraux en fait de la réflexion sur la direction artistique globale. Et ça, c'est vrai que le travail de Charlotte, notre chef costumière, a été passionnant là-dessus. Elle m'a fait énormément de propositions. Il a fallu arbitrer. C'est nouveau, très très nouveau pour moi. Et en même temps. Il y avait des séries comme Tabou, par exemple, avec Tom Hardy, pour le personnage en particulier d'Albert aussi, qui il y a une stylisation qui est assez folle. Voilà, on a été nourris de plein d'influences et on a essayé de trouver un équilibre tout en étant un peu singulier. En tout cas, on a essayé.
Oui, Lionel, vous êtes très stylé dans la série. Très bien habillé. Non, très chic.
Merci,
très chic.
Mais dans la réalité aussi.
Et dans la réalité aussi, c'est vrai, on peut le dire. Il a un très joli pull rose aujourd'hui. Vous arrivez dans une scène très physique, Lionel. On va écouter pour se mettre dans l'ambiance. C'était vraiment pour se mettre dans l'ambiance, pour voir à quel point aussi il y avait de l'action. Est-ce que c'est la première scène que vous avez tournée ?
C'est la dernière.
C'est la dernière que vous avez tournée ?
C'est la dernière qu'on est allé tourner un ou deux mois après, je crois.
En janvier,
à la fin. On a fini le tournage en novembre et on allait tourner cette scène à Arcachon en janvier. Donc c'était assez particulier. D'ailleurs, c'est Aurélien qui a réalisé cette séquence. Et c'est la dernière. Donc c'est venu clôturer un petit peu toute cette grande aventure et c'était génial parce qu'en fait le personnage, je l'avais vécu avec lui pendant 5 mois, donc de le retrouver pour sa scène d'exposition, Bah, du coup, ça allait vite dans les émotions et dans les enjeux de cette séquence. Quoi.
Alors, on vous voit vous battre avec un nombre considérable d'hommes. Je n'ai pas réussi à les compter, d'ailleurs.
Ouais, ils sont beaucoup.
Ils sont beaucoup. Vous les alignez tous. Hein.
Ouais.
Voilà, c'est vous, le vainqueur. Je ne spoil pas. Hein, c'est...
Non.
Voilà. Vous pouvez nous raconter la préparation d'une scène comme ça? D'abord, est-ce que vous avez des doublures, par exemple? Parce que c'est assez... je ne sais pas si on peut employer le mot de cascade, mais il y a quand même...
C'est extrêmement
impressionnant. Est-ce que vous avez une doublure? Est-ce que c'est vous qui avez tout assuré, des figures?
Alors, moi, la volonté, dès le départ, c'était inconcevable pour moi de ne pas faire ces séquences-là. Il y en avait beaucoup, déjà, à l'écriture, elles existaient énormément, et c'était une vraie composante d'Albert, ça n'allait pas sans ça. Donc, j'ai eu une discussion avec la prod, où j'ai dit, écoutez, moi ce sera moi, quoi. Je veux absolument. Ils m'ont dit, ouais, t'inquiète pas, on verra, tout ça. Je me suis dit, non, on verra que ce sera moi à l'écran. Ça, oui. Et du coup, ils ont été tous très à l'écoute. Et avec le directeur des cascades, Michel, c'est vrai qu'il sait... Moi, je ne suis pas un combattant, je n'ai pas de technique pour me battre. Donc, ils se sont vraiment adaptés à ce que je savais faire. Et on a créé les chorégraphies en fonction. Une chorégraphie comme pour cette séquence-là, c'est une journée de travail avec les autres cascadeurs. Et donc, effectivement, il faut être en forme. Bah, il faut y aller à 2000-3000%.
Oui, parce que vous parlez de chorégraphie, je veux bien, parce qu'effectivement, il y a une esthétique du mouvement, mais il n'y a pas que ça, il y a de la force. On sent quand même que on est dans un combat, on n'est pas dans un ballet où on ne se touche pas. Il y a plus que de la chorégraphie. Vous avez fait quoi? Vous avez une préparation en art martial, je ne sais pas, moi, en roulade spécialisée?
Effectivement, je me bats à peu près.
Alors, ma
plus grande formation, on ne va pas se mentir, c'est les films.
D'accord.
Ouais. C'est en fait, je sais me battre à travers les films, c'est-à-dire je vois
Belmondo
comment...
Belmondo et consorts.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, à l'intérieur, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que j'utilise des choses... Et comme avec Aurélien, on a quand même pas mal de références communes, c'est vrai que quand on a parlé de ce combat-là, c'était assez évident pour nous, les mouvements, et on voulait qu'il soit atteignable aussi, Albert. On voulait pas que ce soit un héros qui arrive et qui défonce tout le monde, qui mette tout le monde par terre. On voulait qu'il se prenne des coups, on voulait que ce soit difficile, on voulait qu'il en chie, pardon, excusez-moi. Et c'est vrai qu'on a, encore une fois, on a créé une choré, ou en tout cas une façon de se mouvoir, à partir de moi, on a créé un costard pour se dire, on va pas faire des choses impossibles où il saute, il fait une vrille, je sais pas le faire. Donc on se dit, ok, en fait, ce que je sais faire, c'est à l'arrache et au travail, eh ben Albert, ce sera à l'arrache et au travail. Il s'en prendra 2-3 avant de... Il faudra qu'il mette 4-5-6 coups avant de gagner. Il faudra que... Voilà, ce sera difficile pour lui.
Et d'ailleurs, vous avez fini comment?
Résultat des cours, je me suis fêlé une côte, mais sur l'ensemble du tournage, hein, je me suis fêlé une côte, j'ai pris un KO, un coup de coude un peu sur la tempe, enfin un bon coup de coude, et avec 4 points de suture sur une main. Alors pas sur la même scène, hein, sur l'ensemble du tournage. Je me suis fait recoudre sur le plateau quand même, c'est une de mes grandes fiertés. Je dis, j'ai pas peur, vas-y, recoue-moi, pas de problème.
Rappelez-moi de jamais faire un tournage avec Aurélien. Voilà. Aurélien, d'ailleurs, vous avez utilisé une expression dans une interview qui m'a amusée, en parlant notamment des scènes de combat. Vous dites que c'est très clipesque. Mm-hmm. Donc du mot clip. Ouais. Je me suis demandé si vous étiez un fan de Mylène Farmer et s'il y avait quelque chose de
boutonnant.
De boutonnant.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, il y a une esthétique, il y a une même esthétique. Je le dis sous le ton de la boutade, mais il y a quand même quelque chose.
Non, bah, c'est d'autant plus vrai que les réalisateurs qui ont travaillé avec, sur la série viennent du clip, hein, viennent aussi de la pub, du clip. Il y a un vrai désir, en tout cas, de quelque chose de plastique, en fait. Ça vient de là. Moi, j'ai. Et généralement, c'est le clip qui permet de repérer des réalisateurs avec un fort univers, un souhait en tout cas d'esthétique très très prononcé. Et c'est vrai que moi, c'est à la fois des amis, les personnes avec qui je travaille principalement, et qui ont ce même souhait-là. Donc il est vrai que, évidemment, il y a du clip.
Mais est-ce que vous entendez si je vous dis qu'il y a aussi beaucoup de la culture geek? Quand je dis geek, je pense notamment aux jeux vidéo, je pense à Assassin's Creed parce que moi ça m'a sauté aux yeux, mais j'ai pensé beaucoup à La Ligne Verte, le film avec Tom Hanks et ce personnage de Oka qui est dans votre série et voilà, qui m'a fait penser à ce film, mais aussi à l'esthétique de Sherlock, la série. Est-ce que vous revendiquez toutes ces influences ou ça vous parle pas du tout et vous dites elle est complètement folle?
Ah non, au contraire, même ouais. C'est-à-dire que même là
vous avez le droit, hein, on n'arrêtera pas l'enregistrement de cet épisode, hein, vous savez.
C'est même un millième du nombre de références. Bah, je viens d'une génération, enfin, je suis venu au cinéma et à la série parce que j'étais tout simplement cinéphage, même à tout niveau, que ce soit des films hongkongais ou on peut regarder Andrei Rublev de Tarkovsky et passer dans la même journée à du Takashi Miike. Enfin, il y a vraiment cette émulation. J'aime le cinéma, une passion pour les images, pour les histoires. Et ce qui fait qu'en fait, cette série, il y a un côté comme ça, melting pot, qui est à notre image, c'est-à-dire à l'image d'une génération aussi qui est nourrie. Aujourd'hui, on a une accessibilité, une vraie curiosité de cinéma. Et moi, c'est à tout niveau, en fait, ça se construit de la sorte. Et au contraire, je le revendique. C'est une série de geeks, parce que j'en suis un. C'est une série de cinéphiles et avant tout une série de passionnés, en fait.
Et on avait, pardon, oui, on avait vraiment, quand on a reçu, quand on était tous pris, tout ça, machin, on a eu un roadbook, on va dire, avec des références cinématographiques, séries.
Pour comprendre
pour
l'univers
et pour nos personnages aussi, pour qu'on puisse s'inspirer de
Et choses. Alors vous, par exemple?
Moi, j'avais Tabou avec Tom Hardy. J'avais L'Ange Blanc. Non, comment c'est avec...
L'Ange Blanc, c'est le catcheur.
Non, alors c'est pas du tout L'Ange Blanc.
Non, The Wrestler.
Non, tu sais, Le Guerrier Silencieux, tu sais...
Valhalla Rising.
Non, avec...
Okay. Ça va être un truc de geek.
D'accord, hein, ok, là vous m'avez perdu.
Non, enfin, il y en a
d'accord,
d'autres.
Mais il y avait des références.
Il y avait beaucoup de références, ouais.
Et c'est aussi une série de femmes.
Ouais.
Avec des femmes, et notamment une comédienne, Isabelle Aimée Gonzalez-Sola, qui incarne Catel.
Je les ai fait fabriquer.
Celui-ci ? Il sert à quoi ?
C'est pour l'hémostase. Ce qui signifie en d'autres termes.
Stopper une hémorragie.
Pour remplacer Martin, c'est ça ?
Oui, c'est mon deuxième jour.
Excusez-moi si je suis indiscret, mais... quand je vois une femme comme vous dans un endroit pareil, je...
Quand on est une femme, on apprend très vite qu'il y a des prédateurs partout. Au moins, ici, sont enfermés. C'est vrai ce qu'on dit ?
Qu'est-ce qu'on dit ?
Que vous vous êtes injecté la petite vérole vous-même, avant de l'injecter aux prisonniers ?
Vous connaissez la vaccine ?
La variole des vaches ?
La variole des vaches, exactement. Eh bien, elle n'est pas mortelle pour l'homme. L'idée, c'est que si votre corps est déjà contaminé par la vaccine, il sait exactement comment réagir.
Et ça vous protège de la variole dangereuse ? J'ai compris. Vous l'aviez déjà fait ?
Lionel Erdogan, vous me voyez arriver ou pas ? Pourquoi j'ai choisi cet extrait avec Isabelle Aimée Gonzalez-Sola ?
Bah parce qu'on a des projets en commun, non, je pense ?
Ah, je pensais pas au projet, pensais déjà au projet passé.
Oui, ça,
on est d'accord.
Oui, engrenage. Oui.
Engrenage. Vous spoiler ces prochains mois.
C'est ça, je viens d'apprendre en fait révélation, c'est que vous tournez ensemble pour une prochaine série.
Non, ils vont se marier.
Ah, vous allez vous marier aussi, d'accord. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de projets.
Beaucoup de choses en une fois que vous venez de dévoiler. Voilà, c'était top secret, ses parents n'étaient pas au courant.
Non, elle va être très contente d'apprendre ça. On est très amis tous, mais...
Non, évidemment, on a mis un extrait d'Isabelle Aimée Gonzalez-Sola parce qu'elle était aussi dans Engrenage, la série où on vous a vu, qui vient de fermer ses portes il y a quelques semaines, non sans un certain petit bouleversement, un petit pincement au cœur. J'ai cherché le mot. Est-ce qu'il y a une école Engrenage, d'après vous ?
Il y a une famille. Moi, je suis arrivé à la saison 5, ça fait 15 ans qu'ils vivent ensemble, c'est assez... Si le mot école ressort, c'est plutôt une école de l'instant et de l'instinct. Il y a des acteurs, ils viennent à peu près tous du théâtre. Et c'est vrai que, très honnêtement, de bosser avec Caroline Proust, Thierry Godard, Toufik Jalab et d'autres, Valentin Merlet, c'est des acteurs très instinctifs. Thierry Godard, c'est vraiment, il faut le voir, quoi. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on peut avoir une discussion là, comme on peut la voir. On l'appelle pour aller tourner, il va faire une scène d'émotion incroyable, il va revenir comme si il est vraiment dans l'instant. Et comme c'est une volonté de trouver, d'être vraiment dans l'instant et dans la nature, dans la vérité. Il y a pas, c'est vrai, quoi. On a l'impression d'être vraiment des flics. Enfin, pour les autres flics, on est un peu des collègues, quoi. Donc, ce naturalisme qu'il y a dans Engrenage, c'est une école assez incroyable. Si on peut parler d'école, l'école du naturalisme, en tout cas, ouais, ça, on peut le dire.
Éric Rochand dit qu'il y a le réalisateur, le showrunner du Bureau des légendes, dit qu'il y a des acteurs d'instinct et qu'il y a des acteurs techniciens, qui vaut parfois des deux, d'ailleurs.
Ouais.
Est-ce que vous êtes plutôt instinct ou technicien ?
Moi, je suis à l'instinct, ouais. Je suis à l'instinct, ouais. J'aime bien savoir où je suis... je crois que c'est je cite Robert De Niro, vas-y, j'y vais, j'ai pas peur, qui disait il faut connaître son texte par cœur, en long, en large, en travers, pour pouvoir s'en détacher. Et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le texte, le reste. Et il y a tellement de choses qu'on prévoit quand on est chez nous, on se dit on va faire ci, ça, ça. Et au final, quand on arrive sur le plateau, le décor n'est pas du tout ça, la mise en scène, c'est pas ce qu'on avait imaginé. Du coup, j'évite de me fixer les choses et hormis pour les scènes de cascade, évidemment, les scènes de bagarre. Mais sinon, j'évite de trop me formater à quelque chose, à me projeter, je me laisse aussi vivre les instants et vivre les moments pour pouvoir les vivre et les retranscrire les plus sincèrement possible.
Il nous faut quand même un moment de vérité, Aurélien Mola. Est-ce que c'était une évidence au casting, Lionel Erdogan?
On vous
écoute. Pas, allez-y.
C'était une proposition de Michael Lagance.
Ça commence mal, hein, je ne veux pas vous dire, mais ça commence pas très très bien.
Vous doutez bien qu'on a déjà eu cette conversation.
Non, c'est une proposition de Michael Lagance, donc notre directeur du casting. Et en fait, ça a été une évidence. Ça a été le premier rôle choisi, en plus, pour La Révolution. En fait, et ce qui a été assez compliqué, puisque le casting a duré après quasiment 5 mois derrière. Et donc Lionel se disait, mais j'ai été validé, j'ai été pris, mais qui sont les autres? Et donc il était très impatient, il commençait à m'appeler un peu tous les jours. C'était un peu, j'ai là, mec, je suis en train d'écrire les scénarios là, enfin, prends ton temps. Mais c'est bon, t'es validé, t'es dessus. C'est comme ça aussi qu'on a commencé à sympathiser. Il a été validé direct. Ça a été le premier, en fait, casting validé. Et immédiatement, que ça soit évidemment par la partie production, mais aussi par Netflix, en fait, ça a été une évidence, en fait. Ils ont vu l'essai de Lionel, ils ont dit... Ça s'est passé en une journée. C'était assez incroyable. Et d'ailleurs, je ne le regrette pas. Hein, sinon,
alors, casting validé, ça j'ai bien compris. Et comment, c'est une petite question rituelle que j'aime bien poser aux showrunners, comment vous validez les prénoms et les noms de vos personnages? On parlait d'Isabelle Aimée González-Sola qui incarne Catel. Pourquoi ce prénom Catel, par exemple?
Alors, il faudrait que j'avoue quelque chose, c'est que je suis une bille intégrale en prénom. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc assez simple. Bon, hormis Joseph Guillotin, où là, ça allait... En fait, au bout d'un moment, j'ai la flemme sur Final Draft en fait, de retaper ou de taper les noms quand c'est trop long ou trop compliqué. Donc, ça s'appelle tous Albert, ils s'appellent tous Chloé ou des choses comme ça. Il y a toujours
parce que c'est un prénom court.
Voilà, parce que c'est long sinon. On écrit des pages et des pages. Joachim, c'est très très long à écrire. Blague à part sur Catel, par contre, c'est ma co-auteur Gaïa. Je renvoie la balle comme ça. Qui adorait ce prénom. Et même si on lui a dit que c'était quand même un petit prénom breton. C'est compliqué, étant donné que Isabelle est d'origine argentine et que ça s'entend un peu. Mais après, ça fait partie du charme, il me semble.
Et il y a une autre chose aussi qui est très importante dans La Révolution, c'est ça. La musique est omniprésente dans toute la série. Si j'ai bien travaillé, je pense que c'est Pierre Lefebvre qui est...
Alias Waka Stay Set.
D'abord, pourquoi tant d'importance à la musique et comment vous avez travaillé avec le compositeur? Parce qu'on sent que vraiment la musique est calquée sur les images. Alors, je ne sais pas si c'est de la post-prod ou si vous aviez déjà ça en tête, mais comment vous avez
fait? Non, c'était un travail avec Pierre. C'était aussi un casting de musiciens, de compositeurs.
Comment on fait un casting de compositeurs?
J'ai découvert ça, hein, donc c'était mon dépucelage auditif. C'est-à-dire qu'on reçoit plein d'exemples en fait, collés sur des scènes et on voit. Et en fait, Pierre, il avait envoyé une démo. Et en fait, cette démo, croyez-le ou non, mais j'avais rentré les images donc, du prologue sous la neige et on cherchait la musique pour cette séquence-là. Et on a essayé sa démo avec mon chef monteur, mais vraiment par hasard, en se disant, bon, comme ça. Et tout a collé image par image et par image. C'est absurde. Enfin, il a fait une démo qui collait en termes de secondes sans avoir vu les images. Enfin, un petit instant magique comme ça, suspendu dans une journée. Et puis, les autres monteurs sont venus. On est vraiment une équipe très soudée en post-production. C'est quoi cette musique? Et c'est comme ça qu'on a vu Pierre. Il y a eu des longues heures de briefing. Et après, il est parti et il a battu un travail colossal en très, très peu de temps. Et il y avait deux directions, c'est-à-dire évidemment l'illustration en fonction des séquences, et une autre qui était une réflexion à mener, et finalement qu'il l'a conduite, de se réapproprier certains thèmes classiques.
Qu'on vient d'entendre, par exemple.
Et d'être inspiré à la fois par John Carpenter, parce que donc, du coup mon côté geek est évidemment en hommage, et Wendy Carlos qui avait fait déjà des reprises pour Orange Mécanique en fait, de grands classiques, repassés au synthétiseur, retravaillés en musique électro, et qui avait fait aussi la musique de Shining. Et voilà, ça c'était les deux grandes directions.
Et il a travaillé sur les images?
Totalement.
D'accord. Totalement. Donc vous lui avez montré le film monté, quasiment?
Alors, c'était beaucoup plus bordélique que ça. Je pourrais faire croire que c'était hyper cadré, mais il y avait... on était encore en montage, on était de certains épisodes. Donc lui, cravachait sur les premiers. Tout ça s'est fait, mais encore une fois, parce que j'en reviens toujours à un côté équipe passionnée et de geek, hein, faut quand même le dire, qui avait tous envie. Donc... ils retravaillaient, les monteurs musique retravaillaient, repassaient. Et en fait, tout s'est fait de manière à la fois extrêmement organique, mais un peu foutraque. Et tout a fini par s'équilibrer joyeusement. Mais il a travaillé, il a fait un travail énorme. Il a composé je ne sais pas combien de partitions pour, parce qu'il fallait tout couvrir. On n'a pas de...
Il n'y a pas de moment de silence, quasiment pas. Même dans les dialogues, il y a souvent un petit fond musical.
Un fond musical et un fond, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, travaillé par le monteur son de la série, qui a fait un travail incroyable. Donc du coup, il y a énormément de sound design qui vient sous-tendre derrière, puisqu'on n'a pas de bruit réel, donc il a fallu tout réinventer.
Et qui font très peur quand on regarde la série. Parce que ça joue beaucoup aussi sur nos émotions, on est d'accord.
On a essayé.
Mais ça a marché. je vous le dis tout de suite. Lionel Herdouin, est-ce que vous avez quelques semaines de libre pour un futur tournage d'une saison 2, par exemple ?
Bien sûr.
Ou même comment demander, est-ce qu'il y a une saison 2 qui se prépare ?
Quelques mois.
Quelques mois.
Bien sûr.
Vous avez déjà un acteur qui a dit oui, Aurélien Molas.
C'est déjà pas mal.
Donc vous êtes obligé de dire oui pour une saison 2 ?
Ah bah, il faut en parler avec mon agent.
Non, on est plusieurs à dire oui.
Ça dépendra. Enfin, une saison 2, évidemment, la série elle-même, je parle de la globalité, a été pensée en 3 saisons exactement. C'est-à-dire la saison bleue, celle qui est donc censée être la première, 87, saison blanche, 88, saison rouge, 89, et les fameux événements. Oui, alors, pour l'instant, nous sommes en développement et après, ça dépendra évidemment de l'accueil, et des discussions avec Netflix plus amont, le succès ou pas de cette série.
Vous allez devoir reprendre des kilos, Lionel Herdouin.
Ouais, c'est reparti. Ça va être reparti, voilà. Mais c'est pas grave. Ça va. C'est surtout la nourriture.
Voilà, et vous avez le temps entre-temps de peut-être prendre des cours de jiu-jitsu ou de kung-fu.
Ouais, c'est vrai, mais non, je pense que je veux rester comme ça. En plus, j'ai pris de l'âge, du coup, ça va être. Mais il va falloir se préparer, ouais.
Après,
ça dépend, ça se trouve, il va pas vouloir me mettre des scènes de bagarre. Hein.
Vous êtes de quelle génération, Lionel Herdouin ?
Je suis génération 84.
Voilà. Merci beaucoup. merci infiniment, Aurélien Molas et Lionel Herdouin.
Merci
beaucoup. Vraiment. La Révolution est à voir sur Netflix et il y a 8 épisodes. Dans le prochain épisode de Sériland, nous reparlerons de La Révolution en compagnie d'Hugo Bimard, créateur d'une web-série, Confession d'Histoire, à voir sur YouTube. Ce sera également l'occasion de vous conseiller d'autres séries historiques si vous aimez ce genre. Sériland est un podcast Europe 1 Studio, produit par ma fée qui adore les vampires, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec mes sérivores Clémence Olivier, Margot Barallon, Magali Buteau et Tristan Barrault. Si cet épisode vous a plu, écoutez le suivant qui arrive très vite. Mais surtout, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées. Je vous attends notamment sur le groupe Facebook de Sériland. Et puis attention, dans Sériland, vous le savez, il y a une règle, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.